Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. On parle éducation comme chaque vendredi sur RFI chez 7 milliards de voisins, mais aujourd'hui avec des étudiants pas comme les autres. Ils font des études et ils ont déjà lancé leur entreprise, souvent grâce au numérique d'ailleurs, mais pas seulement. Et ça correspond en réalité à une réelle aspiration chez les jeunes. 62% des 18-24 ans aimeraient créer ou reprendre une entreprise. Alors qui sont-ils? Comment ont-ils réussi à être pris au sérieux sans expérience? Quel est leur conception aussi de l'entrepreneuriat. On va en parler avec d'abord le président du mouvement des jeunes et étudiants. Bonjour Dominique Restino.
Bonjour.
Alors vous n'êtes pas tout à fait de la même génération, hein, ne le prenez pas mal, mais que les étudiants qui sont avec nous dans le studio, vous êtes fondateur et président du mouvement pour les jeunes et étudiants entrepreneurs, le MOUVJ. Vous êtes aussi président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Vous avez créé votre première entreprise, vous aviez
24 ans.
Vous l'avez revendu quelques années plus tard. Vous essayez maintenant en tout cas de susciter des... Vous êtes toujours entrepreneur. Vous essayez de susciter des vocations pour que des mouvements de jeunes entrepreneurs étudiants comme le MOUVJ ouvrent des antennes ailleurs. Je crois que vous avez ouvert une antenne en Tunisie. Nous en parlerez. Également avec nous, bien sûr, de jeunes, très jeunes entrepreneurs. Antoine Brichaud, 25 ans, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes étudiant à l'École nationale des ponts et chaussées. Vous venez d'une université d'ailleurs à l'origine, Pierre et Marie Curie. Et vous avez créé... Il y a quelques mois, un produit qui s'appelle une entreprise, Wind My Roof.
C'est ça, ouais.
Ça veut dire du vent sur mon toit. Une entreprise qui commercialise des éoliennes de toiture. Également avec vous, Victoria Mandefield, bonjour.
Bonjour.
23 ans, étudiante à l'ECE et Audencia, ce sont des écoles de commerce. Vous avez créé Soliguide il y a 2 ans, c'est une plateforme en ligne d'information pratique pour les personnes sans domicile fixe. On sera aussi en ligne avec une étudiante entrepreneuse au Bénin, Teslanik Oudénion, 22 ans. Elle est à Cotonou, étudiante en master en gestion de projet à l'Institut international de management de Cotonou. Et elle est aussi co-lauréate du 3e prix de l'Hackathon Solidarity en 2018 pour son projet Transfus Secours. C'est pour stocker une banque de données pour les dons du sang. Et quant à vous, les voisins et les voisines, évidemment, on attend vos questions, vos témoignages. Si vous êtes étudiant et que vous travaillez déjà en tant que jeune entrepreneur, appelez-nous surtout dès maintenant, 33 1 84 22 71 71. Vos difficultés, parlez-nous aussi de vos succès. Et puis, comment vous vous sentez perçu par votre entourage. En fin d'émission, ce sera la chronique de Marie-Rose Moreau, enfants, parents d'ici et d'ailleurs, également d'ailleurs disponible en podcast.
7 milliards de voisins.
On est tout proches.
On est ensemble.
Ça reste entre nous.
7 milliards de voisins et la planète se parle.
Sur notre page Facebook, on a un message d'Aimé qui est en République démocratique du Congo. Il nous dit qu'on a monté un projet avec 3 amis, mais une société puissante en RDC nous a volé l'idée. Monter un projet, c'est pas trop compliqué, suffit de faire marcher son cerveau, mais la mettre en application, c'est s'avère être super métaphysique, parce qu'en Afrique, les structures d'accompagnement sont peu développées. Dominique Restino, je vous vois hocher de la tête.
Oui, avoir les idées, c'est pas très compliqué. Oui. Voilà. Et ce qui est important, c'est de la mettre en application.
Voler des idées aux autres, c'est pas le tout, hein, mais il faut pas croire que c'est comme ça qu'on peut vraiment réussir.
Absolument. C'est l'exécution qui est à 80% le plus important.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Suivez-nous bien sûr sur Facebook et sur Twitter en direct.
7 milliards de voisins.
C'est sur RFI.
Alors, pour comprendre comment on développe le sens de l'entrepreneuriat chez les jeunes dès le lycée, notre reporter Inès Edel Garcia a passé un après-midi au lycée professionnel Jean Boulin à Vincennes, en région parisienne. Elle a suivi une classe de seconde, ils sont vraiment pas vieux, hein, impliqués dans le programme mini-entreprise de l'association Entreprendre pour apprendre, EPA. En ce début d'année scolaire, les lycéens sont encore en pleine réflexion parce qu'ils doivent trouver le concept de l'entreprise qu'ils lanceront au cours de l'année et c'est pas gagné.
Combien votre diplôme en papier?
Oui. En papier.
Notre projet, nous, en fait, c'est de créer en fait un ballon de foot.
On va se procurer des ballons de foot dans des magasins, blancs tout simple. Et puis en fait, on va essayer de dessiner dessus des joueurs de foot assez connus. On va présenter notre idée à des entreprises avec l'aide de leurs machines. Ils vont nous dessiner en fait nos joueurs de foot, mais ce sera beaucoup plus talentueux que nous, avec nos stylos, quoi.
Et comment vous allez convaincre le reste de la classe pour que le projet soit adopté ?
En fait, dans notre classe, il y a beaucoup de personnes qui aiment le foot, parce que c'est quand même mondial. Et puis, du coup, on va essayer de dessiner une belle équipe de France sur le ballon pour que ça les entre guillemets, touche et puis qu'ils apprécient notre idée.
Un petit peu d'attention, s'il vous plaît. J'aimerais bien qu'on débriefe un petit peu.
Chacun va présenter, donc ça va permettre aussi de trouver l'idée, parce que là vous avez 3-4 idées, mais à la fin on va mettre en place qu'une idée.
Je m'appelle Marion Lépinet, je travaille chez Entreprendre pour apprendre d'Île-de-France. Nos missions, c'est d'accompagner les mini-entreprises sur les territoires de l'Île-de-France et les aider à mener à bien leurs projets.
Et est-ce que vous pourriez nous expliquer le concept de la mini-entreprise ?
La mini-entreprise, c'est la mise en place concrète donc, d'une entreprise par des jeunes, donc collégiens, lycéens, également des élèves post-bac et des élèves décrocheurs, qui mettent en place ce projet sur l'année scolaire en passant par toutes les étapes de création d'entreprise. Donc ils recherchent une idée, ils réalisent une étude de marché, ils recherchent des investisseurs, ils passent des entretiens d'embauche pour faire partie de la mini-entreprise et puis après ils mettent en place leur projet, ils contactent des fournisseurs, ils ont un service aussi financier, communication, etc. pour pouvoir vendre leurs produits qu'ils ont mis en place.
Ils passent écrit gants. Éponge.
Gants, c'était pas de gants, vaisselle. Voilà, image.
Oui, mais
ouais, ça c'est bon.
Vous comprenez pas qu'on peut pas l'avoir
là.
Je m'appelle Bouloudaouina, je suis professeur de gestion. Je pense que le projet qui concerne les gants multi-usages, c'est-à-dire qui font office de gants de protection et également d'éponge, j'ai l'impression que ça va faire l'unanimité.
Donc vraiment concrètement, vous allez pouvoir avoir des produits vraiment dans la classe de ce type-là. Voilà. C'est pas fictif.
Non, c'est pas fictif, c'est réel. On va ensuite procéder à l'étude de marché. On va essayer également de faire en sorte de contacter le fournisseur pour savoir s'il peut éventuellement nous faire un prix selon la quantité. Et voilà.
On essaye de plus en plus d'avoir des retours des jeunes mini-entrepreneurs, savoir s'ils ont créé aussi leur entreprise. Il y a un jeune du 77 qui a créé une entreprise de restauration. Après, ce n'est pas forcément le but. Le but, c'est aussi qu'ils apprennent comment fonctionne une entreprise et puis qu'ils se découvrent des compétences. Mais c'est vrai qu'on les encourage si ça les intéresse et s'ils ont envie de plus tard de monter leur propre entreprise.
Dominique Restineau, il n'y a pas ça dans tous les lycées, hein.
Il n'y a pas ça dans tous les lycées, mais l'association Entreprendre pour apprendre, qui est une association internationale, mais donc bien sûr également française, est une très belle association. Le projet est superbe et c'est véritablement ça. En clair, je dis souvent, depuis plusieurs années, je dis Entreprendre pour apprendre, c'est des vraies fausses entreprises avec un président, des fonctions, un produit, un service, des fournisseurs, des clients, un conseil d'administration, une banque. Également. Ils ouvrent un compte en banque, ouais. Il y a un statut un peu spécifique.
Alors, en face de vous, il y a deux étudiants entrepreneurs. Alors là, c'est pas du tout des fausses entreprises, hein. Ça y est, ça démarre. Antoine Brichot et Victoria Mandefield, vous avez pas eu ça au lycée d'ailleurs, des jeux d'entreprise comme ça, d'entrepreneuriat, hein.
Alors, au lycée, non. Nous, au Pont, on a un événement, c'est la Nuit pour Entreprendre, où justement, il y a...
À l'école
des Ponts et Chaussées, exactement. Ouais. Où, là, en fait, en une nuit, donc de 19h à 9h, plusieurs équipes s'affrontent pour proposer un projet, une proposition de valeur, un business plan, ouais. Et il y a un jury le lendemain matin.
Alors, vous, vos projets respectifs, c'est vraiment des entreprises qui ont vu le jour, qui sont en train de voir le jour. Antoine Brichot, vous avez une licence en ingénierie mécanique à l'université Pierre et Marie Curie. Ensuite, vous êtes rentré à l'école des Ponts et Chaussées. Comment vous êtes devenu étudiant entrepreneur ?
Alors, en fait, c'était pas prévu, comme la plupart des gens, je pense, mais... En fait, c'est un projet de cours qu'on a débuté en septembre 2016, où on nous a proposé de réfléchir justement à récupérer le vent sur les bâtiments. De là, on a proposé une solution technique qui était viable, et on l'a présenté à plusieurs concours, mais vraiment plutôt en mode étudiant qu'entrepreneur. Et quand on a vu le succès que ça avait, et disons que les envies que ça générait, on s'est dit bah, c'est dommage de ne pas faire quelque chose. Mmh. Et donc on a décidé de se lancer en février 2018, vraiment en se disant bah, on va pousser ce projet jusqu'au bout et on donnera le maximum.
Qu'est-ce qu'il a de particulier ce projet? Bon, c'est vrai que bon, des éoliennes sur les toitures, moi j'ai jamais vu hein, personnellement.
Alors non, c'est vrai que ça se fait pas beaucoup. En fait, la particularité, elle réside dans le fait qu'on a réussi à allier à la fois la discrétion et à la fois la puissance. Parce qu'en général, quand on a un moyen de production d'énergie qui est puissant, bah, c'est tout de suite très gros. On voit les grosses éoliennes, on voit même les centrales nucléaires, c'est énorme. Nous, on a réussi à concilier un peu les deux en proposant une solution technique qui peut alimenter, par exemple, jusqu'à 20% pour un supermarché.
Et on peut 20% de l'énergie nécessaire consommée. pour faire fonctionner un supermarché.
C'est ça, ce qui représente en gros l'éclairage du supermarché.
Ouais.
Et sur une plateforme
logistique. Rien qu'avec des éoliennes sur le toit,
c'est ça. Avec beaucoup de travail en amont, justement, pour optimiser tout ça et s'assurer qu'on récupère le maximum d'énergie possible.
Alors évidemment, plus la toiture est étendue, plus le bâtiment est horizontal, plus vous pouvez mettre d'éoliennes sur le toit.
Exactement.
Et plus vous pouvez avoir de l'énergie gratuitement avec le vent.
C'est ça.
Si j'ai bien compris.
Exactement. Bah, en fait, pour nous, l'idéal, c'est un entrepôt de 1 km par 1 km.
Type entrepôt de stockage.
Exactement.
Là, il n'y a plus de facture d'électricité.
Bah là-dessus, non, parce qu'il n'y a que de l'éclairage. C'est maintenu à 5 degrés l'hiver et ce n'est pas climatisé l'été. Donc, on est vraiment que sur de l'éclairage.
Vous avez monté ça, vous êtes une équipe, hein, vous êtes trois étudiants.
Exactement, donc on est trois. Je suis accompagné de Baptiste Lafou et Yanis Mahacha, qui sont également étudiants de l'école des ponts et chaussées.
Le démarrage, il s'est fait vraiment par l'école, parce qu'il faut quand même un peu d'argent au départ pour tester des matériaux, etc. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup vous passez des travaux pratiques proposés par l'école comme un simple exercice à tout d'un coup vous lancez une boîte?
Alors c'est vrai que depuis le début, on est soutenu donc par l'école, mais également par ces entités un peu transverses. Donc, on a l'association des anciens ponts Alumni et la Fondation des ponts. Mmh. Donc, la Fondation des ponts nous a financé une partie là donc pour la création de l'entreprise.
Et on peut avoir un ordre de grandeur juste
10 000 euros.
Oui, c'est ça.
10 000 euros pour le projet, qui sont vraiment en fait c'est le prix de l'entrepreneuriat de la Fondation.
Mmh.
C'est en fait ça récompense les étudiants de l'école des ponts des chaussées qui se lancent justement dans l'entrepreneuriat pour les encourager. Et en amont de ça, en fait, on avait accès à tous les laboratoires de l'école pour faire des prototypes. On utilisait des imprimantes 3D, on a utilisé tout le matériel des laboratoires, au contact même des chercheurs de l'école. Donc toute cette valeur-là, on en a profité en fait en amont du projet aussi.
Vous seriez resté à l'université Pierre et Marie Curie, qui est une grande université mondialement connue. Est-ce que vous auriez pu lancer cette boîte?
En fait, je pourrais même pas vous répondre parce que c'est vraiment... C'est un concours de circonstances très, très... Enfin, c'est aléatoire. C'est-à-dire que là, on a eu une idée, je suis tombé sur la bonne équipe, on a été motivé au même moment, et c'est tous ces facteurs-là qui font qu'on s'est lancé. Je sais qu'à l'université, ils ont monté justement un peu cet esprit entrepreneur depuis quelques années, là, à l'université Pierre-Marie Curie. Mais en fait, il faut quand même le déclic de l'idée et après, il faut vraiment la volonté d'y aller.
Et puis, tout un accompagnement, il y a un réseau de mentorat, il y a du coworking, il y a des conférences. Enfin, vous avez bénéficié de beaucoup d'aides, de conseils, de rencontres.
Oui. Alors, en fait, on a eu beaucoup de chance. Au fil des concours qu'on a remportés, donc ça a commencé par le prix de l'innovation Vinci en challenge étudiant en 2017. Donc là, en fait,
Vinci, le géant du BTP.
C'est ça, exactement. Donc qui ont ouvert aux étudiants leur prix de l'innovation. Alors ça ouvre c'est même plus des portes là, c'est des énormes portes. Mais en fait, on a eu la chance de remporter un lot qui était jusqu'à un an d'incubation dans leur nouvelle structure d'innovation qui est Léonard. Et où là, on a été accompagné pendant 6 mois vraiment sur un esprit de mentorat avec des coachs à la fois pour la partie création de valeur sur le business model, le business plan, mais aussi en fait tout l'état d'esprit qu'il faut avoir en fait pour être entrepreneur. Et de l'autre côté, on a aussi le statut d'étudiant entrepreneur qui nous a permis d'adapter un peu notre cursus, de faire un stage de césure dédié à l'entreprise.
C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être un an dans une entreprise.
Exactement.
Vous pouvez faire 6 mois à vous consacrer qu'à votre entreprise en tant qu'étudiant entrepreneur et 6 mois où vous êtes
exactement. Donc,
ailleurs. Vous avez des aménagements de cours, tout ça, on va en parler. Victoria Mandefield, alors vous, comment est née votre entreprise? Là, il s'agit vraiment d'une entreprise sociale.
Tout à fait. Moi, je dis souvent que je suis entrepreneur par hasard.
C'est-à-dire
que
c'est incroyable ça.
Je me suis pas rendu compte et puis d'un coup je me suis dit ah bah mince, je suis en train d'entreprendre quelque chose là. C'est-à-dire que je fais du bénévolat depuis très très longtemps auprès des personnes sans abri Et quand on fait ça, on se rend très vite compte qu'il y a un problème au niveau de l'information et de la coordination des structures associatives et gouvernementales pour aider les personnes. Donc j'ai commencé à tenir une liste de toutes les structures vers lesquelles je pouvais orienter les personnes. Cette liste est devenue une carte, qui est devenue un site internet. Et voilà, tout d'un coup, je me retrouvais à entreprendre au sein de mon école, qui m'a aujourd'hui beaucoup soutenue. Et d'ailleurs, je suis actuellement dans l'incubateur de mon école d'ingénieurs, le CE Paris, qui continue à nous suivre.
Ça veut dire que vous ciblez les personnes sans domicile fixe, à qui vous proposez des milliers de services, de contacts, pour qu'elles puissent survivre dans la rue.
Aujourd'hui, on a référencé plus de 4000 lieux, donc à Paris, Bordeaux, Nantes et la banlieue de Paris. Et ces lieux, ça va aller de l'alimentation à l'hygiène, en passant à l'accueil, aux solutions de réinsertion, l'emploi, la formation, le logement stable. Et toutes ces informations, elles vont être à destination d'abord des associations, de moi quand je maraude, du 115, le numéro d'urgence pour les personnes à la rue, et puis aussi des personnes elles-mêmes qui peuvent se saisir de l'information et s'orienter toutes seules. C'est vraiment important pour nous cette histoire de transparence, pour que tout le monde ait accès à la même information et puisse orienter ou s'orienter soi-même.
C'est un service d'utilité publique, c'est une entreprise sociale. Aujourd'hui, il y a 4 salariés, hein, donc il y a bien de l'argent qui rentre. D'ailleurs, il arrive d'où cet argent ?
Aujourd'hui, nous vivons grâce à des fonds d'amorçage, des fondations d'entreprises généreuses, la région Nouvelle-Aquitaine notamment qui nous a soutenus, l'Europe. Et aujourd'hui, on est en train d'enclencher notre modèle économique. Parce que même si on est une association, même si on a un objet qui est l'impact social avant tout, il est important pour nous d'avoir un modèle économique qui nous permette de vivre, de survivre, de faire avancer notre projet et de l'améliorer en permanence.
Et de devenir donc une entreprise sociale. Vous, Antoine Brichaud, c'est pareil. Hein. Pour l'instant, vous n'avez pas encore, vous en êtes au prototype, vous n'avez pas encore de clients, de contrats signés, mais on va en reparler. On est bien d'accord que vous êtes des étudiants, des entrepreneurs en herbe et encore étudiants tous les deux. Dominique Restineau, vous êtes le fondateur, et président du mouvement pour les jeunes et étudiants entrepreneurs, le MOUVJ. Vous êtes aussi le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Ça, c'est une épidémie, cette fièvre entrepreneuriale chez les jeunes dès leurs études, ou c'est juste une impression qu'on a là ?
Alors, je ne dirais pas du tout que c'est une épidémie. J'ai fondé le MOUVJ il y a bientôt 10 ans sur 3 convictions. La première conviction, c'est que la première ressource naturelle d'un pays, c'est sa jeune génération. La deuxième conviction, c'est que pour une France, pour une nation au cœur du monde, il faut une jeunesse qui bâtit son avenir. On a 2 exemples flagrants en face de nous. Et enfin et surtout, la troisième conviction, c'est créer ou reprendre une entreprise pendant ou dès la fin de ses études est un vrai choix de vie personnel et professionnel, qu'on ait un CAP ou un Bac plus 5, toutes disciplines confondues. Et là, c'est entre 18 et 30 ans que le MOUVJ actionne à travers trois axes majeurs. Le programme de mentorat pour entrepreneurs que j'ai importé du Québec il y a 12 ans, qui est très spécifique.
Donc parce que
le
mot est très galandé. Chaque jeune a un mentor, c'est ça hein.
Alors, chaque jeune qui a créé ou repris une entreprise, parce que le mentorat, c'est exclusivement les entrepreneurs qui accompagnent d'autres entrepreneurs, je dis bien exclusivement. Un mentor, ça ne donne pas de conseils. Un mentor n'a aucune réponse, il n'a que des questions. Il ouvre les champs du possible.
Comme les psychanalystes, hein, finalement.
C'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, c'est par rapport au monde de l'entrepreneuriat.
Vous avez un mentor, vous, l'un et l'autre
hein. Ils ont des coachs, ils l'ont dit.
On a des coachs, ouais.
Et c'est voilà. Ça.
Le mot est très souvent galvaudé, donc ils ont des coachs et c'est très important. Des bidons dans les pépites, les pôles étudiants entrepreneurs. C'est d'un côté un professeur qui a une certaine connaissance de l'écosystème entrepreneurial, et également, ça peut être des dirigeants, mais généralement, c'est quelqu'un, un tuteur qu'ils vont avoir également. La relation mentorale est encore différente. On pourrait y revenir si vous en avez besoin. Donc, on leur a dit, ça fait des années qu'on leur dit, vous savez, il va falloir que vous ayez plusieurs jobs dans votre vie. Vous savez, vous n'allez pas rester dans la même entreprise. Ils sont très intelligents. Et c'est pas parce qu'ils sont ingénieurs. Ils sont très intelligents parce que cette jeunesse est intelligente. Et à force qu'on leur dit, ils ont compris. Donc, ils se sont dit, pourquoi pas créer le job dont j'ai envie ? Pourquoi pas créer la chose ?
Ils ont déjà 2 vies en même temps.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est ça qui est important, c'est cette... appétit, effectivement, de prendre leur destin en main.
Vous restez avec nous. 7 milliards de voisins, bien sûr, vous nous appelez. Si vous avez envie de dialoguer aussi avec les étudiants entrepreneurs, c'est le sujet de l'émission. Étudiants et entrepreneurs, 2 journées en une seule. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
On est en forme.
C'est l'attitude qui gagne.
33 1 84 22 71 71. On a un ex-étudiant entrepreneur à Dakar qui nous appelle. Bonjour Karim.
Bonjour Emmanuel, vous allez bien?
Très bien, et soyez le bienvenu chez 7 milliards de voisins. Donc vous avez, vous, été un étudiant entrepreneur. Aujourd'hui, vous êtes un peu plus vieux, vous avez 31 ans, mais vous avez monté votre entreprise il y a quelques années. Vous étiez étudiant dans une école de commerce à Dakar, c'est ça?
Oui, c'est
ouais,
ça.
Ouais. Et qu'est-ce que c'était exactement?
Voilà, donc le déclic est né à partir d'un constat, alors que j'étais encore étudiant dans une école de commerce. Maintenant, beaucoup de camarades me sollicitaient pour les outils de la recherche d'emploi, comme le CV, l'entretien d'embauche. En plus, j'ai lu le rapport de l'Agence nationale de la statistique et la démographie au Sénégal.
Oui.
Et j'ai vu que le taux de chômage était de 15,7%. Donc, c'était un taux qui ne cesse de s'accroître. Et aussi, il y a plus de 142 000 nouveaux demandeurs d'emploi chaque année. Alors, je me suis dit que donc il faut se lever. Donc, c'est là où je me suis mis l'idée de mettre sur place une entreprise qui va venir en aide les jeunes, donc de les assister par rapport à la recherche d'emploi, oui, par rapport à la formation orientée métier.
Mais vous, vous étiez étudiant comme vos camarades et vous avez commencé à commercialiser ce service, hein, c'est ça, vous vous faisiez payer. Mais comment, pourquoi vous étiez plus compétent que les autres?
Voilà, parce que moi, lorsque j'étais étudiant déjà, j'avais déjà commencé à fréquenter des consultants, à fréquenter des séminaires de formation sur ça, sur la rédaction du CV, sur l'entretien d'embauche. Et l'auto-formation que je faisais, je lisais beaucoup de livres concernant cela.
Oui.
Donc, c'est ça qui m'a donné une avance sur eux.
Oui.
Et voilà, ils m'ont consulté et j'ai partagé l'idée avec eux. Beaucoup étaient intéressés au début, ils venaient. Maintenant, au fil du temps, le projet s'est développé. On a eu à inclure d'autres formations accélérées, orientées métiers, comme oui, l'assistant de direction, chargé de clientèle, la formation en assistant de communication, marketing, commercial, etc. Donc, pour développer un tout petit peu l'activité. Parce que le constat, c'est quoi? Beaucoup de jeunes, en tout cas ici au Sénégal, sortent dans des universités ou les écoles de formation avec un niveau intellectuel élevé. Mais dans la pratique, il n'y a pas grand-chose. Donc, nous, c'est dans ce domaine qu'on a intervenu pour effectivement aider les jeunes à avoir un métier et d'être opérationnels le plus rapidement possible.
Oui.
Donc, c'est ça notre vocation et c'est ce qu'on fait depuis plus de 3 ans maintenant.
Et vous gagnez donc complètement votre vie avec cette activité, Karim?
Effectivement, effectivement, je gagne vraiment voilà, ma vie
et
avec
comment,
ça.
Comment vous étiez, perçu à l'époque, étudiant, qui gagnait déjà de l'argent? Alors, bien sûr, tout le monde a des jobs étudiants, mais là, c'était un peu différent. Et comment vous étiez perçu par les autres étudiants?
Déjà, bon, même pas les étudiants, mais au niveau de l'entourage déjà, il y a certains qui disaient que voilà, ce jeune, il est pressé, etc. Mais d'autres, par contre, donc vous voyez un visionnaire, quelqu'un qui veut révolutionner un tout petit peu l'enseignement. Donc voilà, et certains vous taquinaient des fois, voilà, maintenant vous êtes riche, vous êtes comme ci, alors que vous, ce n'est pas ça. Donc voilà, donc quand on débute et qu'on n'a pas de moyens, il faudra vraiment savoir se battre et faire des sacrifices. Et c'est ça qui nous a amené là où nous sommes aujourd'hui.
Oui, Dominique Restino parlait de choix de vie, hein, étudiant oui, et entrepreneur. Vous êtes d'accord avec ça, Karim?
Oui, effectivement.
Oui, l'étudiant pressé, c'est ce que vous êtes, vous tous les deux d'ailleurs, Antoine Brichot et Victoria Mandefil, des étudiants pressés, moins disponibles que les autres, moins...
Non, pas moins disponible, mais un peu plus chargé peut-être sur la journée.
Oui, quand même. Merci Karim de nous avoir appelés. Et bien sûr, vous pouvez continuer de nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71. On parlait de la perception. Karim nous disait comment il était perçu par les autres étudiants. Vous, comment vous êtes perçu? À la fois dans la promo, dans vos écoles respectives, mais aussi par la famille. Victoria.
Je sais que ça n'a pas été toujours facile pour moi en termes de perception par la famille, parce que je suis dans un secteur assez spécifique, l'entrepreneuriat social, qui n'est pas toujours très bien compris des anciennes générations. Heureusement, il y en a qui comprennent bien ça. Et donc, c'est vrai que je me suis heurtée un peu à une incompréhension de, en étant ingénieur, c'est pas exactement ça à quoi on s'attend.
Non, mais on peut le dire plus clairement. Votre entourage pensait que vous alliez vous diriger vers une carrière très bien rémunérée.
Exactement. J'ai fait une école d'ingénieur,
je connaissais la galère pour l'instant.
Et aujourd'hui, je suis fière de pouvoir me salarier. Évidemment, pas à des niveaux auxquels je pourrais en théorie avoir droit, mais...
Vous pouvez nous donner votre niveau de salaire, Victoria ?
Aujourd'hui, oui, je me paye à 34 000 euros brut, et moi, je trouve que c'est un très bon salaire. Et je trouve que je me paye très, très bien, par an. Et surtout, entrepreneuriat social, je trouve que c'est exceptionnel.
Bah, tout en étant étudiante, tout c'est pas mal, c'est un bon job.
Mais non, je suis plus étudiante, ça fait 2 mois que je me salarie. Et j'ai encore le statut étudiant-entrepreneur qui m'a permis d'ailleurs de faire mon stage de fin d'études dans mon entreprise, ce qui a été une aide incroyable. Et effectivement, bon, les écoles vont nous donner les salaires de sortie et on fait baisser leurs stats. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le sens de ce qu'on fait dans la vie. Et puis le fait que je me lève le matin avec plaisir pour aller travailler. Et je sais que ce n'est pas le cas de tous mes camarades de promo.
Antoine Brichaud, vous, comment vous êtes perçu ?
Moi, sur le côté familial, il y a vraiment un fort soutien. C'est-à-dire que ça vient de tous les côtés. Mes parents...
Vous êtes dans l'innovation technologique
voilà,
en plus.
Ça fait un peu rêver. C'est un produit nouveau. On se dit qu'il y a un gros marché. Puis on le vend aussi bien aux clients qu'à la famille. Donc forcément, ça marche. Et après, de l'autre côté, sur la promo et nos amis, c'est vrai qu'il y a un peu une espèce de cohésion qui s'est créée. C'est-à-dire que tout le monde en parle autour de soi. On reçoit plein d'idées. Et pourquoi vous ne mettriez pas vos éoliennes là ? Pourquoi vous ne les mettriez pas là ? Donc c'est vrai que ça crée un peu d'émulation autour. Et les gens sont vraiment...
Un peu trop parfois, sous prétexte que vous êtes étudiant. Parfois, tout le monde vous donne son avis ou pas ?
Non, pas du tout. Non, vraiment, c'est toujours. En plus, c'est toujours bienvenu. C'est-à-dire que on est quand même nous, on est entouré d'ingénieurs, donc c'est sûr que réfléchir à 3 ou réfléchir à 300, en fait, des fois, ça peut aider.
Dominique Restino, quand on a 23, 24 ans, la notion de risque, comment elle est appréhendée ?
Même si j'ai envie de dire, c'est même pas peur.
Fou. Oui, c'est ça.
Elles étaient intéressantes, vos questions et la réponse également de Victoria. Il y a à peu près une dizaine d'années, il y avait un sondage qui avait donné comme chiffre que 70% des jeunes souhaitaient être fonctionnaires. Eux, ils ont une passion, c'est d'avoir du sens et de donner du sens à leur vie. Avant, il fallait construire une
usine. Ce qui n'est pas incompatible, hein. Fonctionnaire a du sens à sa vie. Hein.
Je suis entièrement d'accord avec vous. C'était pas une comparaison. Ensuite, l'intérêt également, c'est de pouvoir construire un projet professionnel, de pouvoir gagner sa vie, effectivement, parce qu'une entreprise sociale et solidaire, c'est également une entreprise où il faut du chiffre d'affaires, de la marge, comme l'expliquait Victoria, parce qu'il faut un résultat économique pour pouvoir la développer. Ensuite, ce qui est intéressant également, c'est que pour créer une entreprise, je vais schématiser, il fallait construire une usine. Aujourd'hui, vous prenez un ordinateur, vous créez une entreprise. Regardez Facebook, c'est un ordinateur, au départ, avec une idée. Aujourd'hui...
Bon, pour des éoliennes de toiture, il faut un peu plus d'investissement technologique.
Bien sûr, mais Victoria, c'est du service.
Voilà, tout à fait, y a pas besoin tout à fait. Et Karim, qui s'est lancé quand il était étudiant...
C'est du service également, Dakar, et en plus c'est un secteur que je connais bien, puisque c'est 40 ans de ma vie dans le domaine du recrutement. Donc je connais bien le secteur. Donc c'est une dimension qui est totalement différente, et nous, au Mouv'Jeu, on les accompagne dans ce programme de mentorat, plus un pôle d'experts métiers bénévoles. On parlera peut-être des concours, parce que les concours, ils en gagnent. Le Mouv'Jeu a un concours national, où il y a de l'argent à gagner, il y a de l'accompagnement à gagner, il y a un écosystème, il y a une visibilité très forte à gagner, et c'est ce qui leur donne envie. Alors, il y avait les joueurs de football, apparemment, c'est très très bien, mais aujourd'hui, ils ont des modèles d'entrepreneurs qui peuvent changer les choses également.
On va reparler des concours, et puis on va aussi parler quand même de vos difficultés quotidiennes, parce que c'est quand même pas simple, hein, à la fois vos emplois du temps, et puis aussi la façon d'avancer quand on n'a que le statut d'étudiant entrepreneur, entre guillemets, pour monter sa boîte. Vous nous appelez, 7 milliards de voisins consacrés aux étudiants entrepreneurs, 33 1 84 22 71 71. Dans quelques instants, on donnera la parole à une étudiante entrepreneur à Cotonou, au Bénin. Ça sera juste après Fatoumata Diawara.
Yeah.
Fatoumata Diawara, Bonia chez 7 milliards de voisins, on est en direct sur RFI. Nous parlons des étudiants, entrepreneurs, étudiants et étudiantes, hein, évidemment. Teslanik Oudénion est en ligne avec nous de Cotonou. Bonjour Teslanik.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Eh bien, soyez la bienvenue. Vos journées sont compliquées, hein, Teslanik, parce que vous êtes étudiante, vous êtes journaliste et vous êtes entrepreneuse. Vous avez lancé une application mobile et web pour informatiser le don de sang au Bénin, qui est baptisé Transfus Secours, dans un pays qui a une banque de sang, mais qui manque de réserves. Je voudrais juste que vous nous expliquiez vraiment très rapidement, hein, quelle est l'utilité de cette banque de sang, de cette informatisation, et puis surtout comment vous jonglez avec vos trois vies.
Eh bien, Transfus Secours, déjà, ce n'est pas une banque de sang, mais c'est une interface en ligne.
Non, non, on est bien d'accord. La banque de sang, Dieu merci d'ailleurs, elle dépend des pouvoirs publics. Hein.
Exactement. Mmh. Et Transfus Secours est juste une interface qui connecte les différents acteurs de la transfusion sanguine.
Ouais.
C'est une solution innovante que nous avons mise en place ou que nous mettons en place pour rendre un peu plus efficace et plus efficiente la gestion de l'information entre l'offre et la demande dans le système transfusionnel du Bénin,
oui.
Notamment dans la collecte de sang.
Parce qu'en fait, au Bénin, il y a des donneurs de sang, mais ils ne sont pas suffisamment sollicités, informés?
Déjà, on n'a pas suffisamment de donneurs de sang, parce qu'au Bénin, on ne sait pas forcément quelle est l'utilité du don de sang, tout le monde ne sait pas. Et les quelques-uns qui acceptent de donner leur sang ne sont pas... n'ont pas droit à un suivi régulier ou à l'information en temps réel. Mmh. Vous êtes donneur de sang, mais vous n'avez pas forcément à temps l'information de votre date de don de sang ou du besoin en sang au niveau des banques de sang. Donc nous, on décide de mettre en place Transfus Secours pour permettre à ces donneurs-là d'être informés à temps. Et également aux banques de sang.
Ça se fait par SMS, hein. Il y a des relances, on relance les donneurs par SMS notamment, etc. Et puis tout est informatisé.
Par SMS, oui, tout est informatisé, pas uniquement par SMS, également par l'application mobile pour les donneurs qui les auront sur leur téléphone. Également par appel, parce que nous avons une majorité de notre population au Bénin qui est analphabète. Et parmi ces analphabètes, on a également des donneurs de sang. Donc, si on ne peut pas communiquer avec eux par SMS, on les appelle.
Oui. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que vous avez gagné le troisième prix d'un hackathon de Solidar Haïti à Cotonou. Et ça vous a ouvert beaucoup de portes. Hein. Qu'est-ce que ça vous a apporté?
Déjà, il faut dire que c'est ce hackathon qui nous a permis, à moi et les deux autres jeunes béninois avec qui nous collaborons, de mettre en place Transfus Secours, parce qu'avant ça, aucun de nous n'avait l'idée de devenir entrepreneur. Mmh. Et on s'est retrouvés sur ce hackathon. On a décidé de se mettre en équipe et de travailler sur cette idée qui nous a permis de gagner le troisième prix alors qu'on ne se connaissait de nulle part avant de venir. Donc Solidarity nous a donné l'opportunité d'une incubation de 6 mois que nous avons démarré en début de ce mois d'octobre, le 1er octobre donc. Et nous avons droit à... ça nous permet de collaborer avec d'autres jeunes qui travaillent en fait sur des initiatives personnelles aussi. Mmh. On fait également du coworking parce que Solidarity a un centre où nous allons, où nous sommes incubés.
Ouais.
Et nous avons également des coachs.
Oui, bah c'est exactement ce que nous disent Antoine Brichot et Victoria Mandefield. Hein. C'est exactement ce que vous vivez là. Je voudrais juste que vous nous disiez vraiment très rapidement à quoi ressemble votre emploi du temps.
Moi personnellement, avant de me lancer dans cette initiative avec Credo et Bérénice, j'avais une autre vie. Je suis journaliste dans un organe de presse au Bénin, Radio Topa. Et à côté de ça, j'ai mes études et j'ai d'autres projets personnels.
Ouais.
J'interviens un peu dans le social.
Ouais. Et vous êtes en master hein, en plus.
Oui.
Donc en gros, vos journées commencent à quelle heure et terminent à quelle heure?
Mes journées, c'est déjà à partir de 8 heures. À 8 heures, je dois être au boulot, sinon à 9 heures.
À la radio?
À la rédaction.
Ouais.
Oui. Où je reste jusqu'à 13h, 14h, le temps de finir le journal. J'ai ma pause. Après, j'ai une émission tous les soirs, du lundi au vendredi, que j'anime de 18h à 19h.
Et au milieu, vous vous occupez de votre projet numérique?
Oui, ça c'est depuis que j'ai commencé à travailler sur Transfus Secours avec mes deux autres coéquipiers.
Et le soir, il y a l'université, il y a les cours de master.
Ouais. Exactement.
Et ben, ça va
reprendre dans quelques jours.
Ouais. Vous n'avez pas trop le temps de vous ennuyer. Juste un message à faire passer à des jeunes qui nous écoutent.
Moi, je voudrais simplement dire à tous les jeunes, je sais qu'il y a des jeunes béninois qui nous écoutent, des jeunes de par le monde entier qui nous écoutent, et je crois qu'il y a beaucoup de bonheur à entreprendre. Parce que quand vous entreprenez, vous découvrez des talents, des choses que vous ne pensiez pas pouvoir faire. Quand vous entreprenez, vous faites découvrir par le monde. Et nous, Solidarity nous a découvert à travers le hackathon et il ne nous laisse pas tomber, il nous accompagne. Et nous découvrons également d'autres opportunités parce qu'avec le projet, nous comptons participer à d'autres concours sur place.
Eh bien, vous allez nous tenir au courant, hein, Teslany Koudénian. On voit qu'en tout cas, ce ne sont pas les idées qui vous manquent. Et bien évidemment, on a envie d'en savoir plus comment va évoluer ce concept. Transfus Secours, merci d'avoir été en ligne avec nous à Cotonou. Antoine Brichot, Victoria Mandefield. Comment on combine la vie étudiante, la vie de chef d'entreprise? De temps en temps, c'est un peu compliqué, Antoine Brichot.
C'est pas compliqué, mais il faut réussir à s'organiser. C'est-à-dire que moi, j'ai de la chance d'avoir un parcours un peu aménagé, là, justement, en troisième année, où j'ai seulement la moitié de mes cours, mais il m'arrive de recevoir des appels ou des mails pendant les cours. Donc, il faut réussir à faire un peu la part des choses et à séparer. Mais c'est vrai que faire les cours, l'entreprise et en même temps, devoir faire ses devoirs, hein, parce qu'on est étudiant.
Eh oui, c'est ça. Il faut quand même sortir avec un diplôme. Comment vous êtes pris au sérieux quand vous contactez, par exemple, des prestataires pour tester vos matériaux pour vos éoliennes de toiture?
Eh bien, au début, ce n'était pas évident parce qu'on se présentait vraiment comme un projet étudiant. Et en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est des professionnels. En
des clients, surtout, oui.
Ils veulent des clients, eux, ils veulent savoir si on aligne le chèque une fois la commande est passée. Donc c'est vrai que ça, on a mis quelques mois à gagner en crédibilité, mais c'est tout le travail justement qu'on a effectué sur notre césure, c'est-à-dire c'est professionnaliser notre état d'esprit, notre volonté, nos objectifs. Et maintenant, on arrive à dialoguer vraiment de professionnel à professionnel avec ces gens-là, sans souci.
Dominique Restino, aujourd'hui, est-ce qu'on a avancé en France avec le statut d'auto-entrepreneur, avec d'autres coups de pouce, la multiplication aussi des concours pour, je dirais, que les jeunes soient davantage pris au sérieux, même s'il ne faut pas se leurrer, beaucoup vont échouer aussi?
Alors ils vont échouer, ils auront une expérience. Et je vois et je fais accompagner des centaines de jeunes entrepreneurs depuis plusieurs années. Je crois qu'ils grandissent énormément, qu'ils apprennent énormément. Et quand ils ne tombent jamais de très très haut en réalité. Mais par contre, ils gagnent énormément en expérience et en expérience de vie également. On a évolué énormément, oui. Ça va bientôt faire 10 ans que nous avons créé le MoveJ. À l'époque, personne ne s'occupait d'accompagner des jeunes entrepreneurs des 18 à 30 ans. Création, post-création. Il y a des organisations, on a vu EPA, superbe organisation, anté-création. Enfin, c'était en amont. Créer une entreprise dans notre pays, c'est pas compliqué du tout. Ce qui est compliqué, c'est de la pérenniser et de la développer. C'est ça véritablement l'enjeu, et aussi de créer de l'emploi, ce qui est un véritable enjeu pour tout le monde. Donc ça, c'est important.
Là, ils en sont pas encore là.
Hein. Enfin, il y a 4 emplois chez Victoria.
Si, tout à fait.
Absolument,
sur le numérique,
absolument.
Tout à fait.
Ouais. Vous savez, 97% des entreprises en France ont moins de 20 salariés. 4 emplois, c'est déjà très bien. Bravo, félicitations. Ensuite, c'est cette démarche de pouvoir faire en sorte que ces jeunes aient la possibilité de le faire. Le statut étudiant-entrepreneur, nous étions un petit nombre. Et moi, je me souviens avoir présenté ce projet du statut étudiant-entrepreneur.
Ça donne quoi comme avantage
au Premier ministre de l'époque, fin 2012, que je salue parce qu'ils l'ont mis il a été mis au moment des assises de l'entrepreneuriat en 2013, il existe à partir de 2014. Ça donne quoi? Déjà, ça a été dit. Aménagement des cours, mais avant tout, faire prendre conscience que ça existe. Deux, faire en sorte de pouvoir travailler sur son projet de création d'entreprise plutôt que d'aller sur un autre projet dans une entreprise, qui est très bien, mais c'est pas leur projet à eux. Donc de pouvoir le faire dans un cadre réglementé, d'avoir une structure qui peut les accueillir avec du coaching, avec de l'accompagnement, de l'espace de coworking. Voilà. Et ensuite, d'être accompagné. Nous, on accompagne au Mouv'J à travers le programme de mentorat, ceux qui sortent et qui créent l'entreprise. C'est un appel à projet que nous avons emporté avec la Caisse des dépôts et consignations pour pouvoir les accompagner dans ce domaine-là. Ça aménage ça. Ça donne confiance et ça fait prendre en compte qu'ils ont 22, 23, 24, 25 ans, mais qu'ils sont entrepreneurs. Et c'est la prise de responsabilité, la prise de conscience. Et ça, déjà, c'est énorme.
C'est plus un état d'esprit
Déjà, entreprendre, c'est un état d'esprit.
Du cash qui rentre immédiatement.
Exactement.
Antoine Brichot et Victoria Mandefil, tous les deux, vous avez des figures entrepreneuriales dans votre entourage ? Antoine ?
Moi, non. Honnêtement, c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est un peu le saut dans l'inconnu, chez moi.
Donc, pas d'entrepreneur dans la famille ?
Non.
Ouais. Et pour vous, Victoria ?
Pareil, j'ai pas de figure entrepreneuriale à laquelle me rattacher, mais heureusement maintenant j'en ai, grâce au parcours d'accompagnement dont j'ai pu bénéficier, notamment avec La Ruche, qui m'a fait bénéficier du parcours Les Ambitieuses, Women Tech for Good, donc qui accompagne les femmes entrepreneurs sociales dans la Tech for Good. Et là j'ai rencontré des femmes très inspirantes qui m'ont reboostée. Dans ma conviction qu'être femme, entrepreneur et jeune, c'était possible.
Ça veut dire que vous vous êtes recréé une famille, en fait, d'entrepreneurs de votre génération ou plus âgés, finalement. Est-ce que vous êtes différent des étudiants qui ne sont pas étudiants et entrepreneurs, Antoine ?
Je ne pense pas. Enfin, ouais.
Plus responsabilisé ?
Non, enfin, on est plus responsabilisé, mais je pense que de toute façon, à un moment, quand on est en M2...
Master 2, oui.
Exactement, on n'a pas le choix de se responsabiliser. C'est-à-dire que quand on a déjà fait des stages, le passage de la deuxième à la troisième année fait que, voilà, on se professionnalise.
Bon, vous nous tenez au courant, évidemment. On vous souhaite bonne chance et merci à tous les deux. Victoria Mandefil, Antoine Brichot, merci à vous, Dominique Restino, pour vos éclairages. Dans quelques instants, ce sera la chronique parents, enfants, d'ici et d'ailleurs, chez 7 milliards de voisins.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Et comme chaque vendredi, en fin d'émission, on retrouve la chronique de Marie-Rose Moreau, parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Bonjour Marie-Rose.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes pédopsychiatre, directrice de la revue transculturelle L'Autre. On s'interroge depuis quelques semaines au langage. On a vu comment les bébés apprennent à parler, les enfants. Est-ce qu'il faut apprendre aux enfants notre langue maternelle ? Est-ce que les enfants peuvent apprendre plusieurs langues simultanément?
Quand nous avons la chance de parler plusieurs langues, quand nous avons une langue maternelle autre que la langue de la société dans laquelle on vit, la question qu'on se pose, en particulier lorsqu'on devient parent, c'est de savoir effectivement si ça fait du bien au bébé de leur transmettre cette langue maternelle. Alors les études sont extrêmement nombreuses et très claires. Lorsqu'un enfant naît, il est capable de reconnaître et d'émettre tous les sons et donc de parler toutes les langues. Il a une oreille très fine et par exemple, si on lui fait écouter sa langue maternelle parlée par un étranger, sa mère parlant sa langue ou un étranger parlant une langue qu'il ne connaît pas, il va réagir en tétant très fort sa tétine, ce qui montre qu'il réagit beaucoup à la voix de la mère, mais aussi à la langue de la mère. Et de manière moins importante, il réagit à l'étranger qui parle une autre langue. Alors ces expériences précoces, nous en avons des centaines, montrent que non seulement il est animé par la voix de la mère, mais aussi par la langue de la mère. Et même certaines études qui datent de cette année ont montré que parfois, il réagit plus à la langue de sa mère qu'à la voix de sa mère, ce qui désespère un peu les mères qui pensent que les enfants reconnaissent leur voix entre mille.
Donc l'enfant est capable de différencier toutes les langues, mais est-ce qu'il peut les parler toutes ?
Il naît avec cette capacité de toutes les parler, mais très vite, en fonction des langues qu'il entend et qu'on lui parle, progressivement, son cerveau ne va garder que les sons qui sont autour de lui et qu'il va expérimenter. Donc petit à petit, malheureusement, il perd cette capacité à tout prononcer, à tout différencier. Mais malgré tout, grâce à sa plasticité cérébrale, le bébé et l'enfant ensuite gardent une grande, grande capacité à apprendre et à parler des langues. Jusqu'à la préadolescence, on peut apprendre une langue sans aucun accent et on peut apprendre sans aucune difficulté. parler plusieurs langues en même temps ou de manière successive.
Donc, on peut parler plusieurs langues au bébé, ça n'est pas un handicap ensuite pour la scolarité, pour l'apprentissage de la langue de l'école ?
Ah non, oui. Au contraire, il faut parler au bébé toutes les langues qui circulent autour de lui. Pour lui, c'est très facile d'apprendre toutes ces langues et il n'a aucune difficulté à le faire sur le plan cognitif. Le bébé et le jeune enfant, c'est une sorte de linguiste absolu qui est capable de faire ça. Donc si on est un couple mixte par exemple et que chacun des parents parle une langue différente plus une troisième à l'extérieur, on peut parler ces deux ou trois langues au bébé en même temps. Il n'y a pas de règle, aucune obligation à ce que chacun parle toujours la même langue. C'est un préjugé linguistique que l'on entend parfois mais qui n'a aucune validité ni linguistique ni scientifique. Parfois si on apprend plusieurs langues en même temps, on peut avoir un petit retard de langage mais qui est minime et que l'on rattrape aisément en général avant de rentrer à l'école et rapidement, et on gagne en qualité de langage et en richesse de vocabulaire.
Ouais. Pour les familles migrantes, vous le savez, Marie-Rose Moreau, souvent une maman va avoir tendance à se dire non, il ne faut pas que je lui parle la langue du village, d'abord parce que ça n'est pas une langue internationale, et puis parce que ça ne va rien lui apporter intellectuellement pour sa scolarité.
Alors, c'est exactement le contraire, mais les préjugés vraiment sont extrêmement forts dans ce domaine. Il faut parler la langue maternelle pour donner envie à l'enfant de parler tout court et pour lui donner aussi plus de force pour apprendre la langue de l'extérieur. Ça le rend meilleur en français. Par exemple, un enfant qui a cette autre langue maternelle, s'il a la moindre difficulté en français à l'école, disons à ses parents, parlez-lui davantage votre langue maternelle à la maison.
Le créole, dialecte, le bambara, le wolof, la langue, etc.
Et parce que j'entends encore trop souvent, parlez-lui français à la maison, c'est faux. Et cela augmente les difficultés de langage des enfants. C'est très important, c'est une donnée d'évidence et on doit lutter contre les préjugés. Avoir plusieurs langues, c'est un trésor, comme le dit Agège, le linguiste, ne l'oublions pas.
Merci à vous, Marie-Rose Moreau. On se retrouve la semaine prochaine. On parlera des mots. Pas tout à fait seulement du langage, mais les mots ont-ils le pouvoir de guérir ? Ben, les écrivains répondraient oui, bien sûr. On verra pour les psys. Lundi, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission sur les femmes sont-elles en sécurité dans la rue ? Il faut savoir que près d'un quart des femmes ont déjà renoncé à sortir dans la rue pour des raisons de sécurité en France. Et vous, les voisines, comment vous sentez-vous ? Est-ce que vous êtes parfois victime de harcèlement dans la rue ? On écoutera vos témoignages dans l'émission. Ne manquez pas de réécouter cette émission à lundi.